Je vais vous poser la question d'argent de la semaine. Justement, après ces 9 mois de baisse, vous en avez déjà parlé, vous avez un peu défloré le sujet. Quelles sont les opportunités sur les différentes classes d'actifs? On a tous un peu répondu la même chose. On a dit enfin des taux d'intérêt qui remontent. Est-ce que ça veut dire, Christian, qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'une classe d'actifs qu'on a complètement oubliée, hein, la classe d'actifs obligataires, c'est-à-dire simplement prêter, mettre de l'argent dans des fonds qui investissent dans la dette d'État ou de la dette d'entreprise de très bonne qualité, sans prendre de risque. Aujourd'hui, ça paye du 2,5, du 3, du 4, du 5%.
C'est un phénomène très, très récent. Effectivement, on l'avait totalement oublié. Aujourd'hui, il y a...
On l'avait oublié parce qu'on disait « there is no alternative », Tina.
En plus, un rendement nul négatif. Ou trop faible. Aujourd'hui, on a l'impression, sur le marché des taux d'intérêt, que le risque recommence enfin à être rémunéré. On trouve, mais il faut y aller avec beaucoup de prudence et beaucoup de diversification, on trouve des portefeuilles obligataires, de belles entreprises corporate, c'est-à-dire de belles entreprises privées en Europe, qui vont vous produire du 7, du 8%. Là, ça vaut le coup de prendre le risque. Il reste du risque.
Sur quelle durée? Sur des 5 ans, du 7 ans, c'est ça?
Entre 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a un risque de niveau général de taux d'intérêt. Ouais. On ne peut pas y aller aveuglément, parce que si les taux remontent encore d'un cran, et c'est plus que possible et probable, le niveau général des obligations baissera.
On explique pour les gens qui nous écoutent, si vous tenez votre papier jusqu'à la fin, c'est-à-dire si vous investissez aujourd'hui la société n'a pas fait faillite d'ici 7 ans, vous n'avez pas de risque en capital.
C'est là où faut bien travailler, hein, donc un portefeuille bien diversifié.
7 fois 7%, c'est pas mal.
Voilà, non, c'est pas mal. On a les fonds à échéance, je crois, vous les avez cités il y a 15 jours dans votre émission, on appelle ça les fonds à échéance.
Redéveloppé.
Et ils s'en ouvrent beaucoup. C'est-à-dire des fonds où les investisseurs se mettent d'accord pour placer leur argent aujourd'hui dans un portefeuille collectif, parce qu'à prendre le risque d'acheter une seule société, par malheur, ça pourrait être celle qui va faire faillite. Donc il y a entre 100 et 150 sociétés différentes pour répartir les risques. Peut-être qu'une fera faillite, mais ça ne serait pas trop grave sur le rendement. Et attendre l'échéance pour percevoir le remboursement. De façon à ce que le taux de rendement, on dit le taux de rendement actuariel, soit effectivement le taux réalisé à l'échéance.
Vous avez ça chez Sycomore?
Oui, ça c'est effectivement l'actualité, puisque Christian vient de parler de tout fonds à échéance. On en a lancé un le mois dernier.
Allez, expliquez. Alors, donc,
c'est un fonds d'obligation, donc d'entreprise. Alors il est un petit peu plus court, en
juste entreprise.
Entreprise.
Donc il n'y a pas de dette d'État. Donc
entreprise. Non, parce qu'il y a aujourd'hui.
Et vous cherchez des signatures quand même assez.
Alors on cherche évidemment des signatures qu'on connaît bien, des entreprises solides. Hein, on va pas prendre des risques inconsidérés, mais à horizon 4 ans. Donc les positions sont construites aujourd'hui, elles sont vocation à tenir 4 ans. Alors le fonds sera valorisé si des taux montent, ce qui est possible.
C'est quoi votre objectif à peu près de rendement?
Eh bien c'est quasiment 5%. C'est entre 4,5% et 5%. Avec des signatures de bonne qualité. On ne parle pas d'entreprises surendettées, cycliques. Voilà, c'est...
Mais ça c'est quand même, excusez-moi.
Et ça c'est tout à fait nouveau.
Il y a même un truc mieux, et que les entreprises, mieux les que le professionnels fonds, pratiquent aujourd'hui, les particuliers vont s'y intéresser. C'est je ne veux pas de risque. Ou si j'ai peur. J'ai envie d'avoir du dollar. Le dollar joue ce rôle de valeur refuge depuis un an. C'est pour ça qu'on ne parle plus du bitcoin. Ouais. Est-ce que c'est fini?
Non, je ne sais pas.
Est-ce que c'est fini? Et on trouve des bons du trésor de l'État américain sur des échéances de un an ou deux ans, même pas plus. On est déjà quasiment à 4%. Et là, je considère qu'il n'y a pas de risque de faillite de l'État américain.
Mais vous avez un risque de change.
Tous ces fonds.
Voilà. Mais vous avez un risque de change.
On prend le risque de change.
Non, mais je veux dire, notre monnaie de base, de référence, c'est quand même l'euro. C'est-à-dire là, vous faites
les
un double pari.
Les particuliers commencent à s'y intéresser parce que les particuliers ont peur. L'or ne joue plus son rôle de valeur refuge, et le bitcoin, on n'en parle plus. Donc pas mal.
Juste pour être très pratique, hein, puisqu'on parle de c'est votre argent, ces fonds-là dont vous parlez, ils sont accessibles pour les particuliers. Comment? C'est dans des contrats d'assurance vie? C'est référencé?
Bien sûr, ça peut être référencé dans un contrat d'assurance vie, c'est accessible à tout le monde et c'est valorisé, je ne veux pas dire de bêtises, quotidiennement.
Oui.
D'accord, donc il y a une certaine liquidité. Oui. Après, vous avez dit que ce n'est pas garanti en capital, c'est garanti en capital à l'échéance a priori.
Alors, c'est pas garanti. Si on se trompe dans la sélection et que des entreprises font faillite, ce que je peux dire, c'est que depuis 20 ans maintenant, plus de 20 ans, on a créé Sycomore, on a acheté plusieurs milliers d'entreprises, je crois qu'on a eu 3 défauts.
Okay.
Et ce sont des fonds, bien évidemment, qui sont très diversifiés, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de lignes.
On a parlé des fonds datés, un autre tuyau, il n'y a pas une classe d'actifs aujourd'hui qui revient ou un produit qui revient du fait, évidemment, il y a les entreprises, les valos en bourse et les actions qui ont chuté qui peuvent être des opportunités ou pas, on en parlera tout à l'heure, mais il n'y a rien d'autre.
Après, je dirais peut-être, on est effectivement, il y a un consensus, et dit que les marchés risquent de baisser encore dans les mois qui viennent, mais c'est très difficile de non, trouver le point évidemment. Bas. On sait tous qu'on n'arrive pas à avoir le point bas. Et si ça se trouve, c'est maintenant. Et le point bas, on l'a fait la semaine dernière. C'est possible. Valentine, parce qu'il y a un élément que moi je trouve surprenant, c'est que par définition, les récessions économiques, on ne les voit jamais arriver.
Jamais.
Et celle-ci, on en parle tous les jours. Et c'est la première fois que je vois ça. Donc j'espère qu'on se trompe. Mais donc voilà.
Mais nous, sur les
c'est pas mal d'acheter des actions aujourd'hui.
Très rapidement, Valentine.
Sur les taux, nous, on pense réellement que maintenant, on a retrouvé, je partage vraiment vos points de vue, il y a de la valeur aujourd'hui sur les taux, les niveaux sont revenus sur des niveaux intéressants.
Et faut donc, vraiment... on dit aux gens qui nous écoutent, bon, il n'y a pas que les actions, on a répété pendant des années, there is no alternative, parce que les taux étaient à zéro, maintenant que les taux remontent à 3, 4, 5, vous dites même qu'ils vont continuer à monter, exactement. Il y a peut-être un potentiel, et là, il y a des produits, des fonds datés, ou puis, investir en direct, pour ceux qui sont un peu plus sophistiqués.
Et puis, si l'année prochaine, on se dirige quand même sur un ralentissement encore plus prononcé, la classe d'actifs taux est une opportunité intéressante.
Et on passe tout de suite au mot de la semaine. Nathalie, le mot de la semaine pour vous, c'est quoi ?
Non, moi, j'ai pris Halloween. Je triche un peu. C'est le mois d'Halloween. On n'y est pas encore parce qu'on a quand même beaucoup joué à se faire peur sur les marchés, un petit peu sur le plateau. C'est aussi une occasion de voir des films d'horreur, ce qui est toujours très agréable. Et puis, honnêtement, j'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde, on l'a vu sur les marchés, on le voit dans les prévisions, on le voit dans le discours qu'on peut tenir, tout le monde est en train de tirer les scénarios vers le côté le plus négatif possible. Alors que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes. On le voit dans l'indice IFO, par exemple. L'Institut IFO a indiqué que c'était la plus forte incertitude pour l'économie allemande, enfin pour les industriels allemands.
Donc vous dites que c'est donc, tellement trouble qu'il peut y avoir dans tout cela.
Écoutez, on va essayer de finir sur une note optimiste et sinon de manger des citrouilles.
Christian,
alors moi, c'est plus technique, c'est break-even.
Okay.
Alors break-even, ça veut dire point mort, c'est le point G, le point gravitationnel qui vraiment fait basculer les marchés dans tous les sens. C'est ce qui s'est passé mardi dernier quand on a eu plus de 4,5 de hausse sur le CAC 40, c'est que d'un seul coup, le point mort d'inflation aux États-Unis est passé sous 2%. Alors ce point mort d'inflation, il s'observe sur un marché qui s'appelle les index-linked bonds. Alors c'est compliqué, mais c'est un très gros marché. Ce sont les obligations indexées sur l'inflation aux États-Unis.
Ça nous dit quoi ?
Et en observant leur cours, on peut voir quelle est l'inflation qu'anticipe celui qui achète cette obligation à 2 ans ou à 5 ans. Lundi dernier, cette inflation anticipée à 5 ans sur un très gros marché aux États-Unis est repassée sous 2%. Et donc là, on s'est dit, ça y est, la Fed tiendra enfin son objectif, c'est de casser les anticipations d'inflation. Puis là, en fin de semaine, avec notamment la réunion de l'OPEP, hop, le pétrole est remonté un peu, il est repassé à 2,30%. Mais c'est assez rassurant, ça veut dire qu'il y a effectivement un pic ou un plateau qui va durer quelques mois, mais à terme, pour le moment, le marché ne raisonne pas sur une inflation comme dans les années 80 à 10-15% pendant 5-15 ans. Donc le break-even d'inflation, c'est vraiment le truc le plus crucial et c'est l'indicateur numéro 1 de la Fed. Plus que le marché de l'emploi.
Émeric ?
Moi, j'ai choisi le mot pivot ou paradigme. Alors, ça a l'air de ne pas être la même chose du tout, mais en politique monétaire, en ce moment, c'est un peu la même chose. C'est effectivement, pour que les marchés, c'est quand même ça qui nous intéresse, retrouvent une tendance durable haussière, il faut avoir une visibilité sur la fin de ce cycle de hausse des taux. Et changement de pivot, changement de paradigme, et c'est là, à mon avis, où le bas blesse un petit peu, c'est que, en tout cas pour la Fed, je pense que la Fed va monter ses taux plus longtemps que le marché ne le pense.
Ah, vous avez changé d'avis dès que Valentine vous a dit ça, vous avez...
Peut-être.
Elle vous a convaincu.
Elle me convainc toujours.
Pour l'instant...
Non, je pense qu'effectivement, la Fed va rester au quiche, faucon, dur pendant longtemps. Pourquoi ? J'ai pas de boule de cristal, mais j'essaye d'être rationnel et de faire preuve de bon sens. On sort d'un cycle de 30 ans de baisse des taux, où les banques centrales mettaient des liquidités, étaient au chevet des marchés. Il y avait toujours le docteur Bernanke quand les marchés baissent. Là, la Fed a dit, on s'en fout. Pas dit comme ça. Ouais. On est prêt à casser la croissance, on est prêt à avoir une récession et on est prêt à avoir une baisse des marchés. On veut casser l'inflation et ça risque de prendre
un petit peu plus de temps. C'est un nouveau paradigme et donc le pivot, voilà. Si j'ai bien compris.
C'est ça.
Valentine ?
Le mot de la semaine, structurel. Parce que je trouve que c'est passionnant en ce moment, on fait face à des changements qui sont structurels et on doit voir comment nos économies, comment la valorisation sur les marchés doit s'adapter à ces changements structurels. Alors ces changements structurels, c'est aux États-Unis, un marché de l'emploi où on a une force de travail qui est en train de baisser. À post-Covid, on a beaucoup de personnes de plus de 55 ans qui ont quitté le marché du travail, ce qui explique les tensions qu'on a aujourd'hui sur le marché du travail. Et en zone euro, c'est sur le secteur de l'énergie, où on peut avoir une énergie qui soit peut-être moins abondante et beaucoup plus chère sur une période plus prolongée que ce à quoi on s'attend. Donc maintenant, Voilà, comment on va gérer ces changements qui peuvent être structurels.
Et d'ailleurs, c'est vraiment le sujet, parce que finalement, on se dit, bon, le conjoncturel, bah, il va passer d'une façon ou d'une autre. Exactement. Et la question, c'est qu'est-ce que va être ce new normal, le monde, à quoi le monde va ressembler après ces changements structurels que vous avez mis en lumière, et il y en a d'autres, hein, la transition
bien
énergétique
sûr,
en a un massif.